pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Bonjour à tous, c'est Julie Chaise-Martin au micro et j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Jazz Interview cette semaine sur Art District Radio et l'on va voyager peut-être un peu plus que d'habitude. Du son à l'image, de la sensation au souvenir, entre musique traditionnelle et musique actuelle, le groupe Polaroid Songs nous offre lors de concerts-performances son carnet de voyage. Le jazz se colore ici de tableaux virtuels et animés qui apparaissent sur un grand écran en arrière-fond de scène. Le sextet au rythme des images ou les images au rythme du sextet se donnent le défi de nous embarquer, nous spectateurs, au cœur de souvenirs de tournée. Le jeune groupe ne s'interdit rien, casse les codes et les frontières. Trois hommes et trois femmes, parité parfaite pour ce tohu-bohu musical emballant qui se teinte de multiples couleurs, du jazz au rock, du punk au blues, de l'orchestration grandiloquente au solo intimiste. Tout y passe, mais tout est mûrement réfléchi. Et c'est aujourd'hui que l'on va donc voyager dans cette émission, puisque j'ai le plaisir de recevoir les deux co-leaders de Polaroid Songs, Bertrand Berruard, contrebassiste, et Cédric Henriot au piano, au clavier, au sound design et à la direction artistique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être ici dans notre studio. Alors Polaroid Songs, c'est donc le nom de ce groupe de six musiciens qui s'est formé finalement il n'y a pas si longtemps. Vous allez nous raconter ça tous les deux. Une caractéristique, la musique se mêle aux images. Il s'agit de tableaux musicaux qui se vivent en live. Hein. Le mieux, c'est de les voir en live. Alors qui a eu l'idée de ce projet musical? Bertrand, Cédric, tous les deux, comment ça s'est fait?
Alors,
donc Cédric, oui.
Oui, bonsoir Julie.
Bonsoir.
Avec Bertrand, on se connaît depuis presque 25 ans. On a commencé la musique ensemble avec un groupe de funk rock. Et puis ensuite, on a monté un groupe d'électro jazz. On a joué beaucoup en trio dans le monde. Et on voulait poursuivre l'aventure et faire quelque chose à nouveau tous les deux. Et ça a été une idée en gestation pendant plusieurs années et on est arrivé à l'idée, vu qu'on avait voyagé ensemble, qu'on avait des expériences communes de tournée et des expériences fortes et qu'on était aussi intéressé par la musique du monde, on a eu l'idée de monter ce projet donc multi-musical, on pourrait dire, avec plein d'influences musicales et d'en faire quelque chose de différent qu'un trio ou qu'un quartet de jazz, comme il y a beaucoup, d'ajouter d'autres éléments comme la vidéo et puis une instrumentation un peu plus singulière qu'une instrumentation jazz, et puis aussi en mettant de la mise en scène.
Alors effectivement, l'idée, c'est nous faire partager vos souvenirs de tournée, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, et donc de mêler différents styles musicaux, comme vous venez de le dire, Cédric. Mais vous dites vouloir en fait casser les codes, est-ce que c'est une manière un peu avant-gardiste de proposer autre chose dans l'univers du jazz actuel? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a besoin de ça, d'avoir d'autres ouvertures, d'autres projets sur la scène jazz aussi?
Alors besoin, je ne sais pas, mais en tout cas ce que nous on ressent et ce que nous on veut faire depuis le début, c'est une musique universelle en fait. Enfin, ce n'est pas une musique qui forcément s'inscrit dans un style particulier, c'est la musique pour nous en tout cas, c'est le monde entier, quoi. C'est les cinq continents, c'est... Et peut-être des fois le jazz ou quand on met des catégories, on se restreint les possibilités, alors que là, avec un tel projet, on a fait tout l'inverse, on s'est dit on s'autorise tout et on essaie de rendre hommage à plein de cultures du monde qui ont d'ailleurs nourri le jazz.
Et vous, Bertrand, vous êtes d'accord avec ça? C'était aussi une manière, voilà, de de s'ouvrir, de proposer, parce que finalement c'est un peu un défi aussi de proposer un tel projet, parce que comme je disais, ça se vit surtout en live, donc il faut aussi trouver des salles adéquates pour faire cette performance, donc où vous êtes 6 sur scène, donc il faut un grand écran derrière hein, pour voir les images qui animent un peu comme au théâtre aujourd'hui. D'ailleurs le théâtre aujourd'hui amène aussi beaucoup les écrans sur les scènes. Donc il y a ce côté-là de faire une sorte d'œuvre d'art un peu totale.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas un projet qui peut être diffusé dans les mêmes endroits qu'un trio de jazz ou un quartet, mais justement ça part aussi d'une volonté de notre part d'aller sur d'autres scènes, peut-être des scènes un peu plus grandes plus souvent. On a l'habitude, en trio ou en quartet, de jouer sur des grosses scènes aussi. Mais ce projet-là, il est clairement dédié à des théâtres, des scènes nationales, des centres culturels. Donc c'est vraiment un choix aussi, de par le dispositif, de dire on va jouer plus dans ce type de lieu-là. On a vraiment envie de ça.
Oui, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est d'aller aussi explorer d'autres lieux dont vous n'avez pas forcément, vous, l'habitude en tant que musicien de jazz. Et finalement, de toucher d'autres publics, alors.
Tout à fait, ouais. À tel point qu'on a même décliné une version pour les enfants, donc une version jeune public de Polaroid Songs. Alors, pour dire à quel point on a envie vraiment de toucher plus large que jusqu'à maintenant.
Voilà, donc une vraie fête aussi sur scène. D'ailleurs, moi, j'ai pu assister le 5 octobre dernier au Pan Piper, puisque vous y étiez pour présenter Polaroid Songs. Le 4 octobre, pardon, dernier, c'est un petit peu loin. Alors voilà, c'était le 4, donc. Et effectivement, donc c'est une performance sur scène. Et on a même eu droit à des ballons géants à la fin qui survolaient les spectateurs, qui vous survolaient aussi, vous, musiciens. Et ça ne vous empêchait pas de continuer de jouer. Donc voilà, il y a ce côté un peu festif aussi.
Oui, donc on a vraiment envie, entre autres choses, de décloisonner un peu la frontière qui peut exister entre la scène et le public. Et avec Maxime Mott, notre metteur en scène, on a eu quelques idées qui permettent justement de briser cet espace-là. Donc il y a la phase avec les ballons qui est festive, donc on peut se faire des passes, puis c'est des ballons vraiment énormes d'1,50 m de diamètre, donc c'est vraiment jouissif de pouvoir se faire des passes entre la salle et la scène. Et puis il y a un autre moment dans le spectacle où il y a une petite odeur d'encens subliminal qui parvient aux narines du spectateur, et qui est donc une petite touche un peu, on va se demander est-ce que j'ai rêvé cette odeur ou pas à ce moment-là.
Voilà, tous les sens sont en éveil. Cédric, vous me rappeliez juste avant de commencer l'émission que vous connaissez tous les deux depuis 20 ans. Donc il y a quand même une complicité extrêmement forte, musicale, mais aussi d'amitié. Effectivement, ce projet, ça faisait longtemps que vous vouliez travailler ensemble sur un projet particulier, ou comment c'est venu finalement?
Ben on a eu plusieurs projets communs. On a eu ce premier groupe de funk où c'était pas que nous deux, on était cinq. Mais ensuite on a monté un projet d'électro jazz qui a très bien fonctionné. Et puis pour des raisons, pour diverses raisons, moi je suis parti aux États-Unis et etc. On a pas, malheureusement pas continué, voilà. Et c'est vrai que ça faisait quelque temps qu'on voulait se remettre ensemble et créer un projet ensemble. Et puisque moi je pense qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose qui marche très bien, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare. En tout cas, de ce que j'ai pu remarquer de ma vie, j'ai pas trouvé tant de personnes que ça avec qui ça marchait très bien à tous les niveaux. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire quelque chose, et que quelque chose qui nous motive tous les deux et qui nous intéresse. Et voilà.
C'est vrai qu'on a on a développé en fait une complémentarité assez forte. Je dirais qu'on a tous les deux des points forts à des endroits différents de nos différentes aptitudes, mais par contre on a le même but, donc c'est parfait pour emmener au bout ce genre d'histoire qui demande une énergie, comme on peut imaginer, assez colossale, d'emmener une équipe d'une dizaine de personnes, puisque donc il y a metteur en scène, ingénieur du son, création lumière, création des images et des illustrations animées. Donc là, c'est vraiment... on a un peu un fonctionnement de compagnie, en fait, ce qu'on n'a jamais eu.
Oui, de troupe, un peu. Ouais, tout à fait. Troupe théâtrale, un peu, ouais.
Donc, c'est plus la même dimension qu'en trio ou en quartet. Il y a autre chose que de la musique. Donc là, pour mener ça à bien, on a besoin de faire converger les énergies le plus possible.
Alors, vous êtes à la composition, Cédric, en majorité, ou comment tout, ça se partage
Tous les deux, c'est un projet commun, donc il est, Bertrand ouais. est autant directeur artistique que je le suis. Quoi.
D'accord, voilà. Ok, oui. Voilà. J'avais présenté effectivement directeur artistique au début, mais vous êtes vraiment tous les deux.
C'est coupé en deux, ouais, les responsabilités sont réparties. On a composé chacun 6 pièces voilà. pour le morceau.
D'accord.
Pour le spectacle.
Pour le spectacle.
Alors traditionnellement, c'est vrai que je demande aux invités de choisir un morceau de musique qui les a inspirés ou qui leur ressemble un petit peu. Puisqu'on parle de composition, on va écouter le premier choix de Cédric. Donc évidemment un standard de jazz qui a aussi cassé les codes à sa manière. C'est évidemment le titre de Herbie Hancock qui s'appelle Caméléon. Donc on l'écoute tout de suite. Alors je ne sais pas si on va écouter les 15 ou 16 minutes, mais enfin, on va en écouter une partie. Évidemment, vous le connaissez tous. Et on se retrouve juste après avec donc Polaroid Songs. À tout de suite. I'm Retour dans l'émission Jazz Interview sur Art District Radio et l'on vient d'écouter donc le fameux titre Caméléon de Herbie Hancock, premier choix musical d'un de nos deux invités, Cédric Henriot. Alors cher Cédric, pourquoi ce choix? Voilà, j'imagine que c'est un morceau qui vous a évidemment, comme beaucoup d'ailleurs, un peu fasciné, mais pour quelle raison précisément?
Alors chère Julie, j'ai découvert ce morceau par en fait un des premiers professeurs de basse de Bertrand qui s'appelait Anthony, et ça a été pour moi une révélation parce que à l'époque on faisait du rock donc avec Bertrand etc. J'avais pas du tout cette culture du jazz, des morceaux instrumentaux. Et en fait, c'est tellement prenant, c'est tellement groovy, c'est tellement funk que j'avais pas l'impression d'écouter du jazz. En tout cas, j'avais pas l'impression de devoir comprendre la musique pour l'apprécier en fait. Voilà, plutôt.
Il n'y avait pas ce rapport peut-être un petit peu intellectuel parfois que le jazz demande, en tout cas, une connaissance particulière.
Carrément. Donc ça a été ça. Et après, j'ai découvert en fait que aussi le Fender Rhodes, donc l'instrument qu'il jouait, c'était l'instrument que j'utilisais dans le groupe de rock. Mais je ne savais pas que cet instrument était si populaire et était utilisé notamment en jazz. Donc ça a été. Et puis pour la petite anecdote, ce morceau, donc écrit par Herbie Hancock. Herbie Hancock, j'ai travaillé il y a quelques années avec lui. Donc en fait, ça a été... Donc,
à quelle occasion, juste pour préciser un petit peu?
Pour préparer sa tournée en piano solo en 2012 et pour lui préparer des samples, pour lui préparer tout ce qui est l'aspect technique des ordinateurs autour de son piano. Et donc pour la petite anecdote, donc je suis un peu tombé dans le jazz par ce morceau, par Herbie Hancock, et après travailler avec lui, évidemment, c'était plus qu'un rêve, c'était une espèce de boucle bouclée, quoi. C'était très très amusant.
Oui, alors c'est intéressant parce que donc si on revient évidemment sur le cœur de cette émission qui est donc votre groupe Polaroid Songs, vous le définissez alors de multiples manières, hein, on peut dire il y a plusieurs entrées, on peut y voir un petit peu tout ce qu'on veut aussi nous-mêmes en tant que spectateur, mais il y a quand même des fils conducteurs qu'on peut suivre, une inspiration notamment de Bartok, mais aussi une grande présence des nouvelles technologies. Comme vous disiez aussi, le fait de faire beaucoup d'acoustique, d'électronique, etc. Et alors Bartok, parce qu'il y a notamment une forte inspiration et une forte imprégnation de musique folklorique, les nouvelles technologies, parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets d'acoustique, comme je disais, qui se mêlent aux cordes. Alors, des cordes qui sont d'habitude plus classiques, hein, donc, puisqu'on a un trio qui est violoncelle, violon et alto donc sur scène avec vous. D'ailleurs, vous dites aussi que ça pourrait former en gros deux trios qui se complètent, hein, ce trio de cordes et puis évidemment le trio basse, batterie, piano. Alors, est-ce qu'il y a une manière de qualifier cette musique ou pas du tout? Vous laissez, nous laissez libre de penser, de qualifier comme on veut, ou est-ce que vous avez envie quand même de qualifier ce projet d'une manière précise?
On n'a pas forcément eu l'envie de le définir. Enfin, ce projet est un voyage musical et visuel, tout simplement un voyage musical et visuel. Mais dans cette appellation, il n'y a pas d'étiquette musicale, comme vous pouvez le constater. Et il n'y a pas de limitation musicale. La référence à Bartok, elle est simplement dans le fait d'aller chercher au cours de voyage des folklores locaux et de se les approprier. Donc il y a eu cette démarche de Bartok, déjà de réécrire des morceaux folkloriques existants à sa sauce. Il a fait ça avec les danses roumaines par exemple, mais qui sont des morceaux existants qu'il a réarrangés. Mais il a également créé des folklores imaginaires, donc qui sont des pièces de sa création, qui ne sont pas des morceaux folkloriques revisités, mais qui sont vraiment des compositions de sa part, mais qui sont inspirées librement de ce qu'il a pu ressentir dans tel ou tel endroit. Et en fait, nous, le point de départ de l'écriture de tous ces morceaux, c'est on ne va pas faire un pastiche de musique folklorique locale. Déjà, ça ne nous amuse pas autant que de se dire qu'est-ce que j'ai ressenti sur ce moment-là, et on va voir où ça m'emmène, et je ne me mets aucune barrière. Et à partir de ce souvenir de tournée, je vais fabriquer quelque chose qui me parle à moi avant tout. Bien sûr, ça peut être l'occasion de prendre des éléments dans tel ou tel pays. Par exemple, moi je sais que j'ai prélevé un type de gamme en Indonésie, par exemple, une pâte à tonique indonésienne. Ce qui était drôle parce qu'on pouvait l'entendre à la radio dans la pop musique locale aussi. Donc même la pop est marquée par ces éléments constitutifs de leur culture là-bas. Ou alors, par exemple, un type de rythme pour l'Afrique du Nord, etc. Donc il pouvait y avoir des éléments comme ça, mais aussi des éléments non musicaux beaucoup plus éloignés d'éléments folkloriques musicaux, comme une ambiance de transport en commun au Japon, des voix. Ou carrément c'est l'anecdote parfois qui a pris le pas sur comme cette fois on se retrouve sur un parking à Mexico City et où il y a des mariachis qui sortent de leur voiture et qui nous font un concert privé à 1h du matin. Donc là c'est vraiment l'anecdote qui prend le pas sur la culture musicale locale quoi. Donc on s'est inspiré librement de tous ces éléments pour en faire quelque chose qui nous ressemble et qui ressemble à ce qu'on a envie de transmettre de ce qu'on a vécu.
Oui,
bien dit.
Et c'est effectivement une sorte de tour du monde de musical, de voyage musical, comme vous avez dit.
Et visuel.
Et visuel, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs c'est intéressant, vous avez utilisé le terme prélevé. Parce que j'ai bien compris, hein, évidemment, il n'y a pas une... On prend pas un morceau folklorique et on le met pas dans la musique pour ensuite en faire un nouveau morceau. C'est pas ça du tout, effectivement. Mais ce terme de prélevé, c'est intéressant parce que ça rappelle un peu les explorateurs d'autrefois ou les ethnomusicologues d'autrefois ou actuels d'ailleurs, qui effectivement vont s'intéresser à un style, mais c'est aussi une sensation, une atmosphère. Je parlais de sensation dans l'introduction justement parce que moi c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on voit et quand on vous écoute, on peut aussi nous-mêmes voyager intérieurement et aussi retrouver ces sensations qu'on a pu avoir soit en écoutant de la musique par ailleurs, soit en voyageant également, parce que ces tableaux visuels que l'on voit derrière vous, donc sur scène, ce sont des compositions graphiques. Alors il y a un peu de tout, mais effectivement ça peut être des pictogrammes, ça peut être des personnages, ça peut être des tableaux un peu plus abstraits qui se mêlent comme ça à la musique et qui nous embarquent quand même dans des directions un peu précises. C'est-à-dire que certaines images vont évoquer l'Asie, d'autres l'Amérique du Sud, et on va dans l'inconscient, dans l'imaginaire collectif, retrouver finalement ces images qui nous parlent. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a en même temps du collectif, du grand public, de ce qui nous parle à tous finalement, et aussi intérieurement on peut s'embarquer, on peut se fondre un peu là-dedans. Donc ça c'est ce flou un peu que vous avez voulu, enfin cette espèce de double
lecture,
de double référence que j'imagine vous avez un peu réfléchi avec votre scénographe. Enfin,
bah, la vidéo c'est le même principe que la musique, c'est-à-dire qu'avec Kader, notre illustrateur qui a fait un travail remarquable, on a discuté pas mal au téléphone ou en live pour lui raconter un peu nos anecdotes de tournée et donc de continent, là où on voulait dédier un morceau. Et lui, il l'a un peu interprété à travers son prisme et il en a sorti les images que tu as vues. Et c'est pareil, c'est une espèce de relecture. C'est pas juste une photo de Mexico ou une photo d'Indonésie. C'est effectivement, il y a des éléments assez abstraits, des éléments qui sont créés pour l'occasion et des éléments qui sont peut-être plus concrets. Et
ouais, et d'ailleurs, Kader a été très très loin dans le sens qu'il a voulu donner à ces images, puisque il a créé un fil conducteur, en fait, en tout cas qui lui est propre et qui est peut-être apparent pour certaines personnes qui regardent le spectacle, qui est le fil conducteur du rapport à l'autre. Et en fait, on peut analyser chaque tableau sur une nouvelle facette du rapport qu'on a à autrui. Je donne un petit exemple, comme ça sera peut-être plus clair. Par exemple, il y a une scène où il y a une tempête dans un avion. Et cette scène-là, donc, c'est le rapport à toujours chercher un responsable chez autrui. Il nous arrive quelque chose, on cherche un responsable. Et quand on ne trouve pas de responsable, bon, bah, faut inventer un dieu ou un démon pour le désigner responsable de ce qui se passe. Donc là, dans cette scène de tempête, par exemple, il y a un dragon qui finit par apparaître derrière les nuages, et c'est lui donc, qu'on a choisi de désigner comme responsable de ce qui nous arrive. Ça, c'est une facette de l'autre. L'autre comme responsable. Donc ça a une portée philosophique en fait assez profonde que nous-mêmes on n'avait pas exprimé de façon aussi explicite, et Kader nous a emmenés sur des terrains encore plus profonds et qui résonnait en nous de la même façon que ce qu'on lui a proposé comme anecdote résonnait en lui. Donc c'était vraiment un bel échange.
C'est remarquable, hein. Extrêmement.
Oui, oui, c'est-à-dire que c'est des images aussi qui vous portent à chaque fois. Et est-ce que ce sont toujours les mêmes? Est-ce qu'à chaque fois que vous jouez, il y a un même ordre? Ou est-ce que vous changez? Quelle est la part de l'improvisation aussi là-dedans ou...
Alors, ben, le spectacle est quand même fait pour être vu dans un ordre défini à l'avance.
D'accord.
Et puis, les images, en fait, c'est un travail de composition également, donc ce n'est pas improvisé. Donc, on verra toujours les mêmes images. Après, ce qu'on met en œuvre, c'est d'améliorer à chaque nouvelle version du spectacle, d'améliorer des détails, autant dans la musique, dans la mise en scène que dans les images. Donc, là, par exemple, il y a le tableau sur Berlin, qui était le dernier morceau du concert au Panpiper, qui va être assez remanié au niveau des images, parce qu'on n'était pas encore satisfait à 100%.
Alors, je parlais aussi de ces mélanges. On parlait de ces mélanges musicaux, musique actuelle, musique plus traditionnelle. J'en viens à votre choix, Bertrand, votre choix musical. Donc, je vais l'annoncer et puis on va l'écouter. Et ensuite, vous nous direz un petit mot, peut-être justement sur ces rapports de fusion entre musique traditionnelle et jazz plus actuel. Donc on va écouter le pianiste de jazz arménien Tigran Amasyan avec un titre qui s'appelle The Court Jester et c'est l'album Shadow Theater. C'est bon, j'y suis arrivée. On fait la pause et on se retrouve juste après.
Thank you.
Tigrane Amasayan dans Jazz Interview sur Art District Radio aujourd'hui, donc avec ce titre qui s'appelle The Court Jester sur l'album Shadow Theater. Et donc c'est Bertrand Berruard, un de nos deux invités aujourd'hui, qui a fait ce choix musical. Bertrand, alors un petit mot, pourquoi nous avoir fait écouter ce morceau, puisqu'on parlait aussi de Polaroid Songs, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être en lien?
Alors, y a une raison toute simple, c'est que c'est un album qui m'a beaucoup marqué, Shadow Theater, que j'ai pu voir en concert également. Et effectivement, pour une fois, on avait un artiste de jazz, ou décrit comme tel, qui proposait autre chose qu'un simple concert sur scène. Donc il y avait un écran avec de la vidéoprojection, des images plus abstraites que ce qu'on a proposé par la suite dans Polaroid Songs, mais qui plonge quand même dans un univers graphique, et puis des cordes, du chant, et une composition qui n'est pas tellement jazz, puisqu'en fait il y a des moments qui sont presque métal, où on prend des impacts de piano, basse, batterie dans la figure, un peu comme si c'était des guitares 7 cordes. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect rock et rentre dedans, et très puissant en fait du traitement sonore qui est fait sur cet album, et ça correspond effectivement à des directions que je pense qu'on a envie de prendre. Alors pas forcément, je veux pas parler à la place de Cédric et dire qu'il veut prendre la direction de Tigrane, c'est deux pianistes qui ont un style qui n'a absolument rien à voir, mais après par contre dans la direction globale, c'est emprunter aux musiques actuelles leur qualité de production sonore, leurs influences musicales, et puis avoir la liberté du jazz, donc l'improvisation, stylistiquement, ne pas se mettre des barrières trop proches, pouvoir aller là où on veut, et proposer un spectacle total. Donc oui, il y a pas mal de points communs entre Tigrane et Polaroid Songs, et également aussi les influences arméniennes qui sont présentes dans son jeu, les inflexions folkloriques et traditionnelles, qui peuvent aussi faire penser à ce qu'on a pu prélever dans certains pays.
Justement, prélevé toujours. Oui, en effet, on casse les murs, on rentre dedans. C'est aussi faire des pas de côté, aller plus avant, explorer encore plus de possibilités du jazz. Mais évidemment, on ne parle pas que de jazz, parce que tous les deux, en plus, vous avez une carrière déjà qui est assez mûre. En fait, vous êtes quand même sur scène depuis longtemps. Et donc, vous avez eu des parcours édifiants, intéressants. Vous êtes passé par beaucoup des succès, et puis aussi plusieurs styles musicaux. Vous avez exploré, vous n'êtes vraiment pas que dans le jazz depuis que vous avez commencé à jouer. Hein. Donc ça, c'est important aussi.
Effectivement, ouais, c'est vrai que nos influences sont beaucoup plus larges que simplement jazz.
Parce que c'est vrai que quand on voit Polaroid Songs, enfin, pour l'avoir vu, on a l'impression qu'après, on peut presque danser, venir sur scène, voilà, danser avec vous et se faire plaisir, et ne plus être coincé dans un petit fauteuil à vous regarder en étant là, oulala, faut pas faire de bruit, voilà.
Alors, il faut quand même rappeler que le jazz, je vais le défendre,
oui.
C'était de la musique de danse dans les années 30. Bon, il y a des côtés intellectuels.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on danse plus. Hein.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Mais... à part pour le swing, peut-être. Mais
Oui, c'est vrai, ça revient.
Ça revient à la mode.
Mais ça a été mixé avec plein de styles, avec la musique latine, avec la musique électronique, etc. Donc c'est vrai que de nos jours, le mot jazz, ça ne veut plus dire grand-chose, en fait. Ce que moi, je retiens dans le mot jazz, c'est la liberté, l'improvisation. Voilà. Le reste, l'instrumentation, les cultures, c'est tout ça, ça... ça existe, ça existera toujours, quoi. C'est de la musique, en fait, avec un grand M.
Mais alors, rajouter effectivement beaucoup de sound design, et puis aussi donc aller sur l'art visuel. Ça, c'est aussi un petit peu aller au-delà de certaines frontières. Ça se fait pas encore beaucoup en musique, en tout cas en jazz.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose. Le public, puisque vous avez déjà joué à plusieurs reprises, quelle est la réception du public sur ce projet ?
Eh ben, elle est, on va dire, extrêmement bonne. Et ouais. La bonne surprise, c'est que ça touche autant les enfants que les adultes. Les enfants qui peuvent être très critiques quand ils n'aiment pas quelque chose. Mais là, on a dû les... Enfin, c'était l'émeute.
Ouais. Ouais, c'est totalement vrai. C'est très encourageant. Par rapport au visuel, c'est vrai que c'était aussi quelque chose qu'on avait envie d'explorer tous les deux, qu'on n'avait pas encore fait par rapport au concert, qu'on avait pu faire dans le passé avec des groupes communs. Et ça, c'était vraiment une évolution qui nous intéressait aussi, de mettre du graphisme sur de la musique, parce que c'est pareil, ça rend la musique, ça fait lire la musique autrement et vice-versa, quoi. C'est incroyable.
Et alors vous deux, est-ce que vous avez des inspirations un peu, ou des choses, des préférences artistiques? Est-ce que vous allez un petit peu voir de l'art dans les musées ou dans les galeries, par exemple? Est-ce que l'univers, en fait, des arts plastiques vous intéresse? Par ailleurs, je veux dire, en dehors de l'intégrer dans la musique.
Bien évidemment. Après, je pense qu'on a individuellement notre culture propre à ce niveau-là, qui peut être construite de bandes dessinées comme de peinture contemporaine ou de culture dessin animé, manga, etc., qui font partie vraiment, je pense, de la culture pop actuelle. Et c'est des graphismes qui parlent à tous, qui sont vraiment bien ancrés dans notre inconscient collectif, qu'on peut retrouver, je pense, un peu au sein des propositions de Kader. Donc il y a ces univers manga, etc. Et il y a également d'autres univers qui sont beaucoup moins typés, beaucoup moins codés, qui lui appartiennent plus et qui me parlent tout autant. Ouais, bien sûr, l'univers visuel, c'est quelque chose qui... D'ailleurs, on dit qu'un musicien voit des couleurs, voit des images quand il entend un son. Je pense que c'est toujours associé quelque part.
Ouais, je suis totalement d'accord. Et juste pour finir, je vais peut-être pas développer assez là-dedans, mais moi je trouve que Kader, par exemple, il a fait le travail que nous on a fait en musique, il l'a fait en image, quoi. Et ça, c'est assez incroyable, parce que il est pas à la base du projet, enfin je veux dire, il est pas dans nos têtes, et il a compris l'idée et il a fait la même chose, quoi. Donc c'est...
Alors, il y a 12 tableaux visuels, c'est comme ça qu'on peut les appeler.
Oui, tout à fait. Des tableaux, en fait, parce qu'ils sont à la fois musicaux et visuels.
Oui, c'est vrai.
Disons,
ouais.
Dans cette description, on essaie de mettre les deux disciplines au même niveau.
Oui, ouais, 12 tableaux. Et alors, à chaque fois, évidemment, correspondant à une destination, donc un souvenir de tournée, de voyage, ce sont de vrais souvenirs ou c'est un petit peu inventé?
Authentique.
Alors c'était, ouais, c'est évidemment parce qu'avec Cédric, donc, comme il le disait en début d'émission, on a eu l'occasion de faire le tour du monde.
Mais ce
plusieurs
sont des
fois.
Souvenirs plutôt de tous les deux ou de tout le groupe? C'était ça aussi la question que je me posais.
Alors c'est pour l'instant, c'est plutôt des souvenirs partagés avec Cédric. Certains souvenirs vont commencer à appartenir à Ellie aussi, qui est le batteur du projet, avec lequel
Ellie Martin Charrière,
avec lequel nous tournons aussi en trio. Et je pense que là, les prochaines fois qu'on va jouer le tableau sur la Roumanie, on aura des souvenirs en commun.
Voilà,
parce qu'on
a
pu vivre des soirées, des moments un peu fous dans ce pays récemment. Et puis, on espère par la suite créer la suite de ce spectacle avec, pourquoi pas, des souvenirs partagés par l'ensemble du groupe, puisqu'on les aura vécus ensemble. Et un autre objectif qui nous ferait vraiment extrêmement plaisir et qui est un de nos buts, c'est d'aller rejouer ce spectacle dans les 12 endroits qui ont inspiré sa création.
Ah oui, d'accord. Donc retourner et puis revoir aussi. J'imagine que vous avez lié peut-être des liens d'amitié là-bas. Quel est le pays peut-être qui est, pour chacun d'entre vous deux, qui vous a le plus marqué ou c'est tous pareils?
Ça dépend pourquoi, en fait. Ça dépend si on parle du public, si on parle des expériences de la vie. Pour le public, le plus récent, ça a été le Mexique, l'année dernière, quand on y allait. C'était incroyable, quoi. On a joué devant plein de personnes de tous les âges, de toutes les cultures. Et voilà, on a eu un accueil incroyable.
Après, l'Indonésie, par exemple, c'est un pays où on est allé plusieurs fois... Sur 3 années consécutives, je pense, c'est ça.
Ouais.
On a dû y aller 3 ou 4 fois. Et donc, on a pu assister à des moments privilégiés. On a été invité à une répétition de gamelan, donc l'orchestre balinais traditionnel. Et donc, au milieu des temples, assister à cette répétition à laquelle personne n'assiste jamais, on a été envoûté par donc les danseuses, les instruments, les métallophones, etc. C'est complètement enchanteur. Mais après, c'est difficile de dire ce qu'on préfère. Mmh. C'est tellement différent en plus.
Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, Polaroid Songs, on va bientôt pouvoir le découvrir, ce magnifique spectacle. Vous allez être donc à Belfort très prochainement. Ce sera le 20 décembre, donc à 19h au Granit, c'est la scène nationale de Belfort. Et je précise qu'il y aura également donc un spectacle pour le jeune public à 14h. Donc vous jouez deux fois, une fois l'après-midi, une fois le soir. Ça, c'est quelque chose que vous allez décliner par la suite ? Aussi le jeune public et le tout public.
Bien évidemment, c'est vraiment une de nos priorités même. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que en fait, notre spectacle se veut aussi ludique. Il y a même des mises en scène qu'on va accentuer, exagérer pour les enfants qui peuvent être plus réceptifs parfois que les adultes à des effets comiques, alors que nous sommes pourtant d'excellents comédiens. Je ne comprends pas que les adultes ne veulent pas à chaque fois. En tout cas, il y a des choses qu'on va garder plus poussées, plus nature pour les enfants, qui fonctionnent très bien. Et donc, bien sûr, c'est un de nos axes de développement. Au-delà de ça, la conséquence, c'est qu'on crée aussi un public pour demain, avec des enfants qui on espère transmettre cette ouverture et cette curiosité.
Alors justement, l'évolution du projet en 2020, parce que donc c'est pas très vieux ce projet-là. Hein. Ça fait combien de temps que vous tournez en fait
Un an. Tu as vu le premier concert du projet hors résidence de création.
Tout à fait, d'accord. Ouais. Il y aura d'autres résidences de création. Vous avez des projets d'évolution là-dessus?
Alors, en termes de résidence de création, là, on en a fait deux, donc en octobre 2018 et en mai 2019. Donc, d'accord. Pour l'instant, on a vraiment la matière.
C'est déjà bien.
Elle ne demande qu'à vivre en fait maintenant sur scène dans cette version en sextet. Par d'accord. contre, un projet qui nous enthousiasme, c'est de créer une version symphonique donc de ce projet. Et donc, d'ailleurs, on est en train d'écrire des arrangements actuellement, puisque ce sera joué une première fois le 6 juin 2020 à Clamart. Avec l'orchestre de troisième cycle du conservatoire. Donc un projet semi-pédagogique et semi-artistique, enfin surtout artistique réellement. Et donc ce sera le début de cette version symphonique en juin.
D'accord. Donc là, une plus grande formation.
Oui, donc avec un orchestre symphonique qui peut atteindre 40, je crois qu'on aura quarantaine de musiciens.
Ah oui, donc c'est quand même le
ouais,
grand...
c'est la totale. Il y a vraiment tous les
un enjeu intéressant là. Ouais.
Ça va changer la musique et puis la portée que ça. Et puis aussi, ça nous permet de créer d'autres types de partenariats et d'aller jouer à d'autres endroits avec d'autres personnes, de faire évoluer le projet encore sous une autre facette. Et ce symphonique, on va certainement le rejouer deux autres fois. Alors c'est en train de se construire, mais on espère le jouer à Nancy Jazz Pulsation en 2020, le festival de jazz de Nancy, et puis à la Philharmonie du Luxembourg aussi. Donc on est sur plusieurs pistes pour ce symphonique, donc qui permet aussi d'envisager les choses autrement en termes de diffusion.
C'est très enthousiasmant tout ça. Donc en tout cas, le public à Belfort pourra vous découvrir le 20 décembre à 19h, et puis donc à 14h, je le redis, une session pour le jeune public. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler donc de Polaroid Songs, un sextet donc à découvrir avec plein de projets en plus à venir. Et justement, pour voyager et se quitter en voyageant encore, eh bien, on va écouter un des titres de Polaroid Songs, puisque vous avez choisi tous les deux Bali Java. Donc effectivement, moi j'ai très envie de voyager là tout à coup avec Bali Java. On va aller au soleil. Un petit mot sur ce titre peut-être, avant juste qu'on l'écoute en se quittant.
Eh ben là, c'est donc le souvenir auquel on faisait allusion tout à l'heure. Donc,
enchanteur et onirisme voilà, aussi.
Ouais. On arrive, on s'assied au milieu des temples et là, la musique du gamelan commence.
Et voilà, et le mystère aussi arrive, donc c'est aussi ça la joie de la musique, c'est de se laisser porter. Donc on va se laisser porter tous les trois pour se quitter dans cette jazz interview. J'étais ravie de vous accueillir, donc Cédric Henriot et
Julie.
Bertrand Berruard, et à très bientôt. Et donc je redis que je conseille, parce que moi je l'ai vu le spectacle, j'ai eu la chance de le voir, c'était la première en plus au Pan Piper, donc le 4 octobre dernier. Et très bonne route à tous les deux.
Merci Julie.
Merci.